Donc nous avons été assez gâtés au mois de janvier, même si on va tout d'abord parler d'un film qui est sorti au mois de décembre, vu que trois films asiatiques sont sortis depuis la fin du mois de décembre. Il y a eu Albator, le corsaire de l'espace, All Boy, qui n'est pas vraiment un film asiatique, mais qui nous a fait penser à un certain film de Park Chan-wook qui avait une dizaine d'années, et le Miyazaki, sur lequel on a déjà fait un podcast, mais comme ici on est beaucoup plus nombreux que lors du podcast, on va laisser parler les quelques personnes qui n'étaient pas là lors du podcast sur Le Vent se lève. On va peut-être commencer par Albator, le corsaire de l'espace, qui donc reprend le personnage créé par Leiji Matsumoto, en l'actualisant quelque peu sous une forme de reboot préquel. En tout cas, c'est complètement indépendant de tout ce qu'il a pu se faire dans le manga ou dans les différentes séries animées. Est-ce que ça vous a plu cette... Bon, Jérémy, on sait que ça t'a moyennement plu en lisant ta critique.
Bah oui.
Tu prends un peu dépourvu, quoi.
Non, ouais, ça m'a pas emballé. J'ai trouvé ça vraiment très très lourd. Limite plombant, quoi. Je me suis fait chier comme un rat mort, pour être poli. Et non, ouais, on a... ça manque d'épaisseur, ça se prend super au sérieux en plus. Il y a pas de plage de respiration, t'es un peu écrasé par le truc. Mis à part le chara-design de Albator qui est assez réussi, c'est vraiment le seul truc que je sauverais du film. Puis là, voilà, peut-être le beau message sur la passation de pouvoir de Matsumoto qui passe un peu le relais aux futures générations, etc. Ça, c'est assez mignon, mais sinon, non, sinon c'est assez raté, quoi, dans tous ces aspects.
Justin, tu partages ces doutes,
hein? Oui, en grande partie. Donc mais visuellement, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a des bonnes ambiances, des batailles. Quand même, c'est un bon space opéra, il y a des bonnes ambiances. Mais c'est un peu creux, quoi. Ça se veut très sérieux, mais c'est assez creux. On sent l'ambition, mais bon, ça va pas plus loin, en fait.
Mais à ce côté de vraiment aussi écrire un film en reprenant un personnage qui a marqué l'enfance, même de très nombreux Japonais, écrire vraiment un film pour adultes. Donc il y a peut-être aussi ce côté forcé, en même temps les thématiques de Matsumoto et de la série Rintaro étaient déjà assez adultes, hein. Mais là, il s'adresse vraiment à un public plus âgé que les premières séries.
Oui, mais du coup, le scénario est un peu... À ce moment-là, autant prendre une intrigue de la série et puis faire une refonte, la revisiter un peu aussi. Mais là, ils ont construit un scénario de toute pièce qui marche pas trop, en fait. Même si ça se veut ambitieux, mais du coup, c'est très inégal, quoi.
Flavien, tu as aimé ou... Est-ce que tu pourrais être le seul ici à défendre?
Non, je partage un peu les mêmes doutes aussi. Il y a de très belles choses, ça c'est clair, en termes de space opéra et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a déjà ce premier aspect, pour moi, de passer à un truc 2D, à un film en 3D et tout, et d'avoir quelque chose de très sérieux et tout. J'avais un petit peu l'impression qu'il y avait un peu des moments un peu... humoristique aussi dans la série.
Il y avait des personnages un peu plus caricaturaux, un
oui,
peu plus,
voilà,
qui amenaient une forme.
Voilà, et là, du tout, là, justement, avec cette espèce de 3D lisse et tout, qui fait un petit peu froid, rigide et tout ça, donc ça tranche vraiment avec la série d'antan, quoi. Et donc, voilà, donc on suit un peu les événements et tout, et c'est vrai que ça prend un petit peu de temps quand même, il faut dire. Voilà, et après, il y a quelque chose sur la passation de pouvoir aussi dans le film qui est très qui est pas mal, donc qui augure, donc on imagine un second long métrage ou peut-être un troisième encore, mais c'est vrai que c'est pas l'adaptation sublime, je sais pas, qu'on pourrait imaginer.
Après, enfin, moi j'ai plutôt bien aimé le côté très actuel du film. C'est vrai qu'ils reprennent pas du tout les ce qui a été fait avant. Il n'y a plus du tout l'espèce de mélancolie poétique qu'on pouvait avoir dans les années 70, début des années 80, pour un réalisme un petit peu désenchanté, qui va avec le côté très mécanique, très froid du film, et alors qui est un peu décevant, parce qu'effectivement on ne retrouve pas du tout ce qu'on a vu quand on était enfant, cette espèce de nostalgie, cette mélancolie. Mais qui s'adapte plutôt bien à l'époque et aux problématiques de l'époque. Moi j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait du personnage d'Albator, notamment sur le dernier acte du film, dont je ne vais pas parler ici, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ambiguïté dans le personnage, qui ne se bat pas voilà, pour la liberté, qui a forcément raison et qui va forcément gagner. Mais le personnage est un peu plus complexe que ça. Ils arrivent à en faire autre chose qu'un, enfin voilà, qu'une parabole juste révolutionnaire. Et ils montrent aussi les failles de cette révolution par rapport à l'époque actuelle. Et dans ce côté-là, même si c'est incompréhensible pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais il y a quelque chose d'assez intéressant sur le final.
Mais il montre les failles du perso, ok, c'est assez original de montrer vraiment un perso un peu ambigu, mais le truc c'est que c'est super démonstratif et c'est super explicatif. Les longues tirades, on dirait un nana où le mec t'explique, là j'ai fait le plan pour faire ci, ça, ça, on dirait, voilà, on dirait vraiment les films, les nanars de Godfrey des années 80 où le ninja il t'explique
qu'il a fait pédagogique,
voilà, le plan machiavélique, quoi. Et c'est, ouais, c'est assez gênant ce côté vraiment très démonstratif, quoi.
Moi j'aime bien qu'on m'explique en fait.
Mais là le problème c'est que ça prend tous les atours d'un blockbuster américain. Avec des préoccupations très japonaises, voilà, l'écologie et tout ci, tout ça. Mais ouais, non, ça fonctionne pas vraiment.
Ah, c'est ça, pour rebondir un peu là-dessus, c'est que, en fait, ouais, c'est très démonstratif, ils expliquent tout, mais de l'autre côté, ils te complexifient à mort les enjeux, et du coup, à la fin, ça devient complètement obsolète, parce que t'en as plus rien à foutre. Au final, ils se tapent sur la gueule pendant 2 heures, alors qu'il n'y a même pas un Pékin qui a pensé à aller retourner sur Terre pour voir si... si ça, il y avait quelque chose qui avait changé ou pas, tu vois, non.
C'est une zone interdite en même temps.
Ouais, pas, mais bon, voilà, il y a plein d'anarchistes dans l'espace, il n'y a pas un Pékin qui a essayé de saufiler sur Terre pour voir s'il y avait pas un
truc. En même temps, c'est un film japonais, donc des Pékins.
Voilà.
Merci. Au niveau de la crédibilité, voilà. je suis plus partagé que toi. Enfin,
voilà. Non, mais c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est
l'Arcadia est présenté comme le seul bastion de liberté. Il y a pas d'autres pirates. Tout le monde l'attend quand il arrive. Et en fait, juste les gens ne sont pas enfermés. C'est aussi un film sur la.
Ouais, mais je
sur
parle. La circulation. Il y a ça, et puis il y a aussi les mecs qui sont les autres. Le camp opposé, qui n'a même pas essayé de vérifier si ça allait mieux. Ils imposent leur politique sans logique, presque.
Ah non, parce que ça les arrange, justement, que les gens ne soient pas informés de la vérité.
Mais ils ne connaissent même pas la vérité. Ils ne savent pas que la Terre est en train de renaître.
T'énerve pas, Nicolas.
Enfin, voilà, quoi, ça m'énerve. Non, mais c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils complexifient les enjeux à mort et que derrière, ils te réexpliquent, ils te l'expliquent... comme 30 fois, 40 fois, sauf que t'en as rien à faire, parce qu'au bout de la 40e fois, tu comprends toujours pas. L'histoire de nœud du temps, annulation du temps qui va faire renaître les machins, c'est des conneries, tout ça.
Par contre, on va tous d'accord là, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer la scène de la jeune fille qui est sous sa douche?
Ah oui, non, mais ça, c'est la scène...
Qui commence à s'envoler en spirale.
Oui.
C'est la scène la plus inutile de l'année.
À la punchline, quoi.
Voilà.
Il y a un peu de fanservice aussi dans le film, donc voilà, cette scène s'explique uniquement.
J'ai cahier des charges. Hein.
Ça, c'est un petit peu gênant. Hein. Pour le coup, ça va plus gêner que le scénario.
Ça te sort complètement du film. Et c'est...
En même temps, Aramaki, c'est ce réel-là, et c'est un peu c'est lui qui a fait Apple Seed, et il aime bien ce genre de
esthétique. Oui,
c'est un peu son style. Ça fait chier
mignon. Et est-ce que vous avez vraiment. Parce que c'est dans les critiques, le fait que le scénario soit incompréhensible revenait souvent. Et Nicolas, tu disais un peu ça, moi ça m'a semblé un peu exagéré quand même par rapport au film.
Non, c'est assez explicatif,
et bon, si tu t'endors pas entre les scènes d'action, tu comprends quand même à peu près ce qui se passe.
Ouais, enfin, c'est pas que c'est incompréhensible, c'est que c'est surtout, ouais, déjà tu t'en fous, au bout d'un moment.
Et c'est froid, ça
c'est froid, voilà, et le truc c'est que c'est alambiqué en fait, mais pour pas grand chose, parce que finalement, tu pourrais aller d'un point A au point B sans problème, tout en, voilà, en fluidité, alors que là, il te perd en explications vaseuses. Ouais. Voilà,
ça me fait penser à des scénarios de Final Fantasy dans les jeux. Par exemple, dans Final Fantasy 13-2.
Exactement.
Et dans le prochain qui va sortir et qui est sorti au Japon.
Exactement.
En fait, c'est un scénario tout à fait basique et qui est complexifié en rajoutant des couches qui ne servent à strictement à rien.
En fait, ça tient sur un ticket de métro, mais eux, ils te font, les détours et tout qui ne servent strictement à rien.
Il y a des noms assez bizarres, enfin, ils sortent des noms.
Exactement, les noms de grosses corporations.
Final Fantasy.
Voilà, c'est l'influence Final Fantasy, encore une fois.
À tous les niveaux.
Voilà.
Bon, alors le deuxième film, avec un scénario qui ne nous a pas trop perdu parce qu'on le connaît à peu près tous par cœur, c'est All Boy de Spike Lee, qui donc remake le film de Park Chan-wook. Alors, a priori, il y a peu de gens qui l'ont vu, tout simplement parce qu'il a eu une sortie quasiment technique en salle. Il est resté une semaine, voire deux semaines dans quelques salles. Le film a quasiment été boudé pratiquement avant sa sortie. Tout simplement, a priori, on ne touche pas au Hellboy de Park Chan-wook. Il y a beaucoup de gens qui pensaient ça, même quand on a passé ne serait-ce que les premières bandes-annonces sur le site, on a eu des réactions quand même assez énervées. Spécial dédicace à Yannick, si tu nous écoutes. Voilà. Est-ce que le film méritait un tel traitement? Et qu'est-ce que vous en avez pensé, Flavien?
Là, je pense, est-ce que le film méritait un remake aussi rapidement? Je pense. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans. Le film a eu le prix, a été présenté à Cannes. Il a eu le Grand Prix à l'époque. Enfin, moi, je sais que je l'ai découvert là-bas. Ça a été un tel choc. Que, enfin voilà, penser à faire un remake de ce film là, j'aurais jamais pensé.
On aurait pu l'avoir avant, il y avait un projet avec Will Smith pendant très longtemps, c'était Will Smith qui devait le faire, je sais plus si c'était déjà Spike Lee, mais Will Smith il était déjà dessus. On aurait pu l'avoir bien plus tôt hein, déjà. Ouais. Ouais. C'était dans les tuyaux.
Tiens, parce qu'on dirait que la tendance à le remake s'inverse, tu vois, maintenant c'est les Américains qui copient les Coréens, alors qu'avant c'était les Coréens qui copiaient un petit peu les Américains, quoi.
Ah, ça va toujours dans les deux sens, j'ai l'impression. Ouais, les spéculations...
Il y a beaucoup plus de remakes de films asiatiques que de films coréens qui remake les films américains.
Oui, bah là, il y a J'ai rencontré le diable, donc qui va très certainement être...
courir.
C'est parti. On peut pas juger.
Ils veulent déjà faire un film PG sorti. Hein. C'est le réalisateur, c'est les producteurs de Dread, hein, le film qui a été complètement coupé dans tous les sens, juste pour enlever toutes les scènes, les séquences un peu.
Ouais. Ouais, j'imagine que Nicolas, t'as pas aimé Hellboy alors.
Non, je le trouve inutile. C'est pas que j'ai même pas aimé, c'est que je le trouve inutile. Au final, ça apporte rien à l'original. Quoi qu'on pense de l'original, d'ailleurs, ça n'apporte rien d'autre. Quoi. C'est tout.
Moi, j'ai trouvé que le film était assez inférieur au film de Park Chan-wook, qui est quand même beaucoup plus virtuose dans sa mise en scène. J'ai trouvé qu'il y avait des éléments intéressants par rapport à la carrière de Spike Lee, notamment dans la première partie, qui rallonge vachement la manière dont il filme le New York des années 90, en fait, dans lequel on sent qu'il se sent à l'aise, qu'il se sent bien, il filme la crasse de ce New York-là. On arrive, je crois que c'est 15 ans plus tard dans le film, on arrive 15 ans plus tard et on trouve ce personnage qui est complètement déboussolé par rapport à son époque. Alors, c'est des petits points dans le film, mais effectivement, il y a un temps d'adaptation. Et on a l'impression que c'est Spike Lee qui dit voilà le New York tel que je pouvais le filmer, et voilà le New York d'aujourd'hui que je n'arrive plus à filmer. Donc le personnage est un peu une métaphore, j'ai l'impression, du personnage de la mise en scène de Spike Lee. Et il y a des petits éléments intéressants par rapport à ce rapprochement qu'on peut faire entre. Le parcours de Spike Lee, qui est un cinéaste très important il y a quelques années, qui s'est un peu perdu, et le personnage du film qui suit un peu le même chemin. Voilà, un ancien Golden Boy qui est sur le déclin au début du film et qui se retrouve 15 ans plus tard dans un monde qu'il ne connaît pas du tout. Donc cet aspect-là est plutôt pas mal, plutôt intéressant quand on connaît la carrière de Spike Lee. Après, je vous rejoins sur le reste, par contre. C'est vrai que c'est un peu lourdeau. Il rate pas mal de scènes de passage obligé, on va dire. Enfin, la scène d'action avec le marteau, par exemple, est vraiment inférieure à celle qui avait filmé Park Chan-wook. Donc le film n'apporte pas grand-chose, si ce n'est, en tant qu'amateur du cinéma avec Spike Lee, il y a ce côté un petit peu méta qui est intéressant.
Mais même à ce niveau-là, on sent qu'il a essayé d'incorporer un peu sa patte, par exemple avec le groom qu'on voit dans toute la première partie. Mais même ça, il va pas jusqu'au bout, quoi. C'est juste une scène comme ça, c'est pas... Enfin, voilà, ça apporte pas grand-chose.
Mais peut-être que, en fait, peut-être que ça a été perdu avec le montage initial qu'il voulait faire. Il a peut-être prévu quelque chose d'autre et tout. Parce qu'après, bon, c'est pas mal joué non plus. Enfin, c'est pas...
Non, non.
C'est Charles
de Copley
quand même, le méchant.
Ouais, enfin, ouais.
Charles de
Copley, mais. C'est quand même.
Josh Brolin est excellent par contre.
Oui, Josh Brolin.
Ouais, mais sûr que Charles de Copley, comparé à la classe de Yuji Tae et à l'espèce de colère douce là, lui il en fait 40 fois trop dans la.
Non, il se croit à l'opéra.
Et voilà, il se croit au théâtre, quoi, c'est ça, c'est un peu ça. Par contre, Elisabeth Olsen, ça, c'est pas mal quand même.
On parle juste du jeu.
Non, mais même dans le jeu, elle est déjà.
Côté plastique.
Non, mais déjà, et puis même, c'est une très bonne actrice. Enfin, je sais pas si vous avez eu Martha Mercy Marlin, je sais plus comment on le prononce. Voilà, c'est ça. C'était très bien. Et puis elle était excellente dans le film. C'est une super actrice.
Non, mais voilà, je pense que si le. je pense que voilà, en tant que film, Old Boy, le Old Boy de Spike Lee, je trouve que ça fonctionne quand même. Et quoi, moi je suis pas un grand fan de l'original, mais c'est vrai que c'est moins virtuose, comme tu le dis, il y a moins de maîtrise dans la mise en scène, etc. Mais je trouve que comme téléfilm de luxe, voilà, quand par un dimanche pluvieux, tu te fais un peu chier, bah tu regardes ça, t'es content quand même. Je trouve que ça fonctionne bien. Josh Brolin, il est assez impressionnant, assez charismatique.
Non, mais Samuel L. Jackson, par exemple, il est complètement ridicule.
Enfin, oui, mais Samuel Jackson est toujours ridicule.
Non,
mais si.
Non, en partant de ce postulat, alors on pourrait dire que la carrière de Spike Lee est peut-être relancée dans le fait qu'il veut peut-être se refaire une sorte de confiance avec ce remake, ce téléfilm de luxe, mais en prenant de bons éléments comme des acteurs.
Non, j'ai pas l'impression.
Pour ensuite créer peut-être
J'ai pas l'impression parce que c'est un peu quand même un film de. C'est un film de Yes Man, un peu, quoi. C'est pas le Spike Lee des années 90 où on pouvait le comparer un peu à Scorsese avec un peu cette envie de filmer, cette fièvre, etc., où tu étais vraiment dans l'action, dans les préoccupations des noirs américains, etc. C'était du cinéma engagé, alors que là c'est un remake, il essaye de se l'approprier par petites touches, mais il n'arrive pas. Et finalement,
est-ce que c'est ça, un manque de confiance en soi de la part du réalisateur?
Non, Spike Lee, à mon avis, c'est pas un problème de confiance. De confiance.
Non, mais je pose des.
Le film aussi a été coupé par les producteurs. Il y a une version qui dure 40 minutes de plus à peu près, donc c'était son montage. Ça a été remonté. Il n'a pas mis Spike Lee Joint comme il le met à chaque film. Donc on peut penser qu'il n'est pas très content du résultat final. Et là, au contraire, il passe sur un projet qu'il finance lui-même avec d'autres fonds, donc un truc complètement indépendant et en dehors d'un gros studio comme peut l'être la machinerie d'Universal qui a derrière.
C'est peut-être une bonne chose justement qu'il passe par le côté vraiment purement indépendant. Peut-être que là, on verra à ce niveau-là, on pourra constater si vraiment il est. Il est à même de faire enfin un bon film ou est-ce qu'il est vraiment sur la pente descendante et c'est la chute définitive, quoi.
Mais j'avais bien aimé Inside Man,
c'était exactement la même chose, c'était un truc de faiseur.
Ouais, mais pour le coup, c'était...
Ça fonctionnait,
ça fonctionnait, c'était un
petit fonctionnait, mais c'était pas le Spike Lee, c'était pas Do the Right Thing ou un truc comme ça, où c'était vraiment le truc, ça te prenait la gorge et c'était engagé. Même Malcolm X d'ailleurs, qui est quand même un biopic, mais c'est engagé, ça dit des choses, alors que là, ça... C'est du cinéma de divertissement, mais creux, quoi. C'est pas...
Peut-être que... je sais pas, moi j'ai pas vu, le film a été complètement sabré au niveau distribution ici. Je crois que c'était le film qu'il avait fait avant, Miracle à Santa Ana.
Il est pas sorti en France, celui-là.
Il est sorti directement en Blu-ray DVD, je crois.
Il paraît que justement,
ça tracait très bien aussi. Donc moi, quand tu parles de pente descendante, je pensais à Inside Man et ce film-là, c'était...
Ouais, je pense qu'il est plus vers le haut,
mais malheureusement, il y a cette commande...
Non, puis le personnage est aussi un peu ambigu, quoi. Il est un peu le cul entre deux chaises, il sait pas vraiment où se positionner.
Il aime bien insulter Tarantino aussi.
Oui, bon, ça c'est un. Mais il a un gros ego, quoi, ce mec-là. C'est Tarantino et Spike Lee, c'est un peu.
Il a qu'à faire son film sur l'esclavage, puisqu'il se dit depuis 3-4 ans, il dit mais à Hollywood, ils savent pas faire des films sur l'esclavage. Je sais pas, est-ce qu'il a parlé sur. Il a dit quelque chose sur 12 Years a Slave?
À mon avis, ça doit pas être.
Ouais,
ça doit être cotonneux, quoi. Ouais.
Il y a des choses qui préfèrent
John
Bonchain,
par contre. Il avait pas mal descendu, sans l'avoir vu d'ailleurs.
Oui, il
avait pas mal
descendu.
Non, puis il a un ego. En fait, c'est le film qu'il aurait voulu faire, je pense.
On va psychanalyser Spike Lee.
Non, mais Spike Lee, il est un peu ambigu, quoi. Il profite du système et en même temps, il crache dessus. Et puis il va voir les Knicks tous les jours au Madison Square Garden. Un drôle de personnage. Ouais.
Le troisième film dont on va parler dans ce podcast, c'est Le Vent se lève. Alors, on a déjà eu la semaine dernière un podcast qui était entièrement consacré à Miyazaki. Donc, on ne va pas forcément revenir très longtemps. Mais autour de cette table, il y a des gens qui n'étaient pas là au podcast et qui l'ont vu. On aimerait bien savoir ce que vous en avez pensé. Julien ?
Bah, oui, on peut en parler. Enfin, moi, j'ai eu en décembre au Forum des Images en avant-première. J'ai vraiment été déjà, dès les deux premières minutes du film, pour moi, c'est les meilleurs. Pour moi, c'est plan par plan, que ce soit la musique, le côté rêve, le côté avion. Il y a vraiment la transmission de la passion de Miyazaki. Et j'avais vraiment adoré les deux premières minutes du film. Après, par contre, ça se gâte de plus en plus. J'ai du mal à adhérer à sa passion sur les avions, j'ai l'impression que c'était trop explicatif, peut-être que c'est moi qui ai un a priori dessus, mais j'avais aimé Porco Rosso, Et je trouvais que le style assez frontal, anti-japonais, anti-conformiste, vraiment anti-nationaliste, on va dire, parce que ça fait quand même un gros clash là-bas, était quand même assez ambitieux et plutôt bien joué. Par contre, il y avait vraiment le côté un petit peu longueur quand ils sont dans la partie Allemagne, la partie explicatif. Donc je trouvais que ça pouvait se trouver un petit peu trop de démonstratif, justement, mais que ça avait quelques longueurs. Et j'en retiens pas grand chose, ça a mal mûri, ça a mal vieilli, donc je pense qu'il faudrait que je le revoie une deuxième fois pour me faire plus une idée.
On était un peu plus positif la dernière fois en ayant quelques.
Il est pire que nous. Hein. Mais ouais.
Non, mais bah, c'est pour ça qu'il faut que je le revoie une deuxième fois.
Flavien, toi, tu as aimé?
Oui, enfin, c'est. Je trouve que oui, c'est un film qui mérite une deuxième vision aussi, parce que sur la première, en fait, on s'attend tellement à revenir dans l'univers de Miyazaki, mais on sent que c'est déjà un film un peu testamentaire. Parce que justement, ce que tu dis, où c'est un peu la partie explicative en Allemagne et tout ça, mais je trouve que ça fait une partie très mélo. Parce qu'en fait, c'est une histoire de corruption, de la beauté, en fait. La beauté de l'avion ou la beauté de la femme, de la personne qu'on aime. Et
bon, et justement, je sais pas, trop donné, ouais. En fait, dans ce film, mais... en faire un petit peu trop, t'as la musique qui est un petit peu répétitive, les explications sont un petit peu trop démonstratives.
Ouais, mais on revient pas.
Le côté un peu trop peu ou trop, ou vraiment trop, quoi. C'est ça qui m'a un petit peu rébuté à la première vision. Mais...
Ouais,
après, mais... c'est pour ça qu'il faut que ça mûrit, que je le revoie une deuxième fois. C'est comme un solution, il faut que je le revoie deux, trois fois pour vraiment que ça.
C'est intéressant ce que tu dis sur le mélo, en fait. C'est vrai que quand tu penses, c'est un vrai mélo. Des années 40, quoi, ou Douglas Fir, des trucs comme ça, c'est un peu. C'est intéressant ça, je sais pas.
Complètement. Et du coup, ouais, voilà, donc c'est vrai que là, c'est plus tellement un film qui s'adresse vraiment aux enfants, parce qu'en fait, je l'ai vu et il y avait des petites filles à côté. Et je voyais qu'elles tournaient un peu de la tête et tout, et comme ça, tu vois. Donc, c'est clair que voilà, c'est un petit peu plus adulte que d'habitude, malgré toute la fantaisie qu'on peut y retrouver encore et tout. Mais c'est. Voilà, je pense que c'est un sacré dernier film, en fait, je trouve.
Bon, bah c'était un bon dernier mot aussi. On va maintenant passer aux sorties DVD du mois.